Maintenant, on vient à la deuxième section, page 2. On a encore vendredi, samedi et dimanche. Nous avons encore 3 jours, 2 jours et demi, disons. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une vision globale. Qu'est-ce que Dieu veut montrer par le prophète Ésaïe? Durant la conférence, nous n'avons pas besoin d'aller dans tous les détails, mais si nous voyons ce but, et si nous avons une vue panoramique, si nous avons une vision globale, alors à la maison, vous pouvez passer beaucoup de temps pour rentrer dans cette parole. Et ça, c'est la signification de la conférence. Le Seigneur doit nous ouvrir cette porte, mais celui qui le désire, il entre. La conférence seule n'est pas suffisante. C'est une aide pour que nous puissions entrer dans la parole de Dieu et que nous allions encore plus profondément. Les choses spirituelles ont 4 dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. À cause du temps, c'est impossible, à moins que nous restions ici pendant 3-4 semaines, et ça c'est pas possible, nous avons seulement quelques jours, 5 jours, nous avons. Et c'est pourquoi nous devons tous être très appliqués. Et nous devons avoir un cœur, nous devons avoir le désir d'entrer dans la parole de Dieu. L'homme vit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant la venue du Seigneur, j'espère que je peux marcher chacune de ces paroles. Car l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur nous donne 70-80 ans. Et il y a assez de temps pendant 80 ans pour prendre toutes ces paroles. Ça doit suffire. 80 ans, ça doit suffire pour entrer dans la parole. Mais si nous ne rachetons pas le temps, alors on ne va pas y arriver. Chaque parole du Seigneur est précieuse, très précieuse. C'est le véritable trésor. Maintenant, chapitres 28 à 35. Et ici, nous voyons, cet après-midi, on a eu une parole préliminaire pour ces chapitres. Et après avoir montré le jugement des nations et du jugement du monde qui va venir, il revient à nous. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce que si Dieu se concentre encore plus sur le jugement, on va périr. Et il y a toujours un encouragement. On ne peut pas avoir que le jugement sans encouragement, mais on ne peut pas avoir que de l'encouragement. Et on a de l'encouragement, mais avec le jugement. Et aujourd'hui, nous devons être raisonnables afin de comprendre cela et de l'accepter. Ça vient de notre Dieu sage. Et à travers le jugement, nous voyons que Dieu nous encourage. et il donne l'assurance que qu'Israël va être sauvé et restauré à la fin. Dieu ne va pas abandonner Sion. Et le Seigneur va garder, il va préserver un reste, même si ce n'est qu'un reste. Et c'est un merveilleux encouragement pour nous. Mais maintenant, nous pensons que tout va bien. Et le Seigneur revient vers nous. C'est merveilleux. C'est comme cela que Dieu agit dans notre vie journalière. Le chemin de Dieu est toujours le meilleur. C'est vraiment le meilleur chemin. C'est très différent de notre chemin. Section 2, chapitre 28. Dieu vient, il se tourne de nouveau vers son peuple, vers Éphraïm. Éphraïm, ça c'est les 10 tribus qui viennent du nord. Malheur à Éphraïm, couronné d'orgueil et enivré de vin. Le Seigneur a de nouveau quelque chose à dire. Ça, c'est les malheurs. Contre Israël et Jérusalem, il y a 6 malheurs. Et le 6e malheur, c'est pour le destructeur, pour le voleur. Sa beauté glorieuse est une fleur fanée. Ne bois pas trop de vin. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Et ici nous voyons que ce peuple est ivre. Verset 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il a fait tomber à terre avec violence. Verset 3 maintenant. Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. C'est vraiment étonnant comme Ésaïe décrit tout cela. Il ne donne pas les versets, alors je ne sais pas où il est, oui. Et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalé. Il y avait un temps où le peuple était glorieux, mais, comme on dit-on, soyez, faites attention, car très rapidement, nous pouvons être enivrés et nous pensons que nous allons bien, nous ne sommes pas glorieux. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas seulement l'Église, mais nous sommes l'Église. Die Gemeinde. The Church. L'Église. Aussitôt que tu sois comme cela, tu es enivré, tu es orgueilleux. Et à la fin, tu n'es plus sobre. Et ensuite, tu vas être fou. Et tu ne marches plus droit. Tu es enivré. Ensuite, ensuite cette fleur glorieuse va faner. C'est une belle image. C'est une très belle image ici. Cet orgueil sort. Cet orgueil apparaît. L'ennemi, il ne travaille en une nuit, sinon tu vas le remarquer. Tu vas voir que quelque chose ne va pas. Mais lorsque le serpent travaille, il travaille peu à peu. Et à la fin, tu n'admires pas le Seigneur, mais tu t'admires. Oh, regarde, et les gens viennent. Et au lieu que nous donnions la gloire au Seigneur, tu donnes la gloire à toi-même. Et nous commençons à penser que nous sommes quelque chose. Nous sommes meilleurs. Nous avons vu tant. Et nous nous trouvons au centre. Il y a beaucoup de sortes de vins. Et nous nous élevons. Comme Lucifer. Comme nous l'avons lu. Et son poison commence à œuvrer en nous. La maladie de cet ange déchu commence à œuvrer en toi. Et ça, c'est le cas avec Éphraïm. Et c'est aussi le cas avec Judas. Ce n'est pas une exception. Nous voyons que nous devons tous faire attention. Pas seulement le vin terrestre te rend ivre, te rend... À la fin, tu ne réfléchis plus juste et tu as des idées. On peut être enivré avec beaucoup de choses, aussi avec l'orgueil, avec la position. Pourquoi les pharisiens, les scribes? Certainement, au début, ils n'étaient pas ainsi, mais avec le temps, quelque chose s'est développé. Au début, tu ne bois qu'un tout petit peu. Ensuite, tu commences jour après jour, tu bois encore un petit peu. Et à la fin, tu ne t'en sors plus. C'est difficile. Et le problème avec un ivre... avec quelqu'un qui est ivrogne, c'est qu'il va dire, non, je ne suis pas un ivrogne. Tu as trop bu. Non, je réfléchis très clairement, il n'y a pas de problème. Mais on ne remarque plus qu'on est ivre. Beaucoup de choses peuvent nous empoisonner. En anglais, on dit être empoisonné, intoxiqué. L'alcool, c'est être empoisonné. Et le problème avec cet empoisonnement, c'est que tu es dépendant. Tu es devenu dépendant de cela. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a cet empoisonnement spirituel et c'est dangereux. Et ça amène le jugement de Dieu. Le Seigneur, il a décidé quelque chose de merveilleux. Verset 5. Et maintenant le verset 6. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Ça devrait être la situation normale. Malheureusement, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Qu'est-ce que nous allons faire? L'ennemi essaie de nous attaquer. La maladie est à l'œuvre. C'est pourquoi le Seigneur doit venir vers nous en tant que le juge. Et c'est aussi l'histoire de beaucoup de groupes. Au début, c'était bien, et à la fin, tout a fané. Toutes les fleurs sont fanées. La beauté n'est plus là. La beauté s'est évanouie. Lorsque j'étais en Allemagne du Sud, il y a bien des années, en ce temps-là, c'était merveilleux. Nous étions brûlants. Bien sûr que nous étions jeunes en ce temps-là. Il y avait beaucoup qui étaient contre nous, contre l'Église. Et ils ont dit, attendez, avec le temps, ça va s'empirer. Je me souviens tellement bien de cela. Il y a beaucoup d'expressions que je n'oublie pas et je n'ai jamais oublié cela. Attendez, ça ne va plus être comme cela. Et lorsque je suis venue aux États-Unis, 5 à 6 ans plus tard, je suis venue en Allemagne en 71. Et en ce temps-là, l'église de Los Angeles se trouvait vraiment au sommet. Nous courions après Christ, véritablement. En ce temps-là, c'était très difficile pour moi de quitter l'église à Los Angeles pour venir en Europe, parce que je quittais le paradis. Mais qu'est-ce que je devais faire? Le Seigneur m'avait amené en Europe. 5 ans plus tard, l'église là-bas est tombée depuis le sommet jusque dans la vallée. Ça m'avait effrayé. Ça a laissé une impression durable dans mon cœur. Et je demandais au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et quand est-ce que nous allons expérimenter cela en Allemagne? » Si ça pouvait arriver chez eux, là-bas, j'ai demandé au Seigneur, alors pourquoi ça ne va pas nous arriver à nous, en Europe? Et je me suis rappelé de cette expression que quelqu'un avait dit, « Oh, attendez encore quelques années, vous serez comme nous. » Au début, c'était glorieux parce que nous étions purs et innocents peut-être. Nous étions purs. Nous étions tous pour le Seigneur. Mais avec le temps, nous sommes enivrés par le succès. Par les bénédictions du Seigneur. Et quelque chose se lève dans notre cœur, quelque chose de cet empoisonnement. C'est pourquoi à Tyrus, ce chérubin était beau au début et plein de sagesse. Merveilleux. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet ange? C'était l'étoile du matin. Il était glorieux, merveilleux. Mais ça a causé sa chute. Tout d'un coup, il était conscient qu'il était merveilleux. Si cette conscience est éveillée dans ton cœur, tu dois remarquer, oh, le poison a commencé à avoir un effet. Le vin est monté à ta tête. Ne pensez pas que cette maladie et ce poison ne sont pas dangereux. Beaucoup de gens chutent à cause de cela. C'est pourquoi que le Seigneur déteste un regard orgueilleux. Et c'est tellement difficile de résister à cela, spécialement si cela est en nous. Alors, ici, il y a encore un avertissement pour nous. Et rappelez-vous ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 10. Ces choses ont été écrites pour nous, afin que nous apprenions de ne pas commettre la même faute qu'eux. Oh, ne pensez pas, ah oui, eux. On ne doit pas pointer le doigt sur les autres. Maintenant, il s'agit des prêtres. Les prêtres sont en Juda. Ils sont tous enivrés. Et à la fin, il parle du non-sens, des sottises. Je n'ai jamais vu un ivrogne qui parle de manière raisonnable. Mais c'est encore pire si nous croyons ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qui est pire. Ils ne sont plus clairs. Ils tombent. Ils chancellent. Ils ne voient plus clairement. Ils ne savent pas juger. Ce sont les caractéristiques de ces personnes-là. À la fin, ils ne savent plus ce qu'ils disent. C'est comme cela. Et nous qui ne sommes pas... Nous ne devons pas être ivres. Mais si nous ne savons pas... Si nous ne savons pas discerner, alors quelle est la différence? Et si moi je bois, je vais t'enseigner à boire. Je ne veux pas boire seul, c'est beaucoup mieux à deux. Et c'est encore mieux si nous sommes assis dans un café, à une table. Oui, bien sûr. Si les Si les sacrificateurs boivent, si les prophètes boivent, qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va boire. C'est ce que le Seigneur a dit au début. La tête est malade et puis malade de la tête aux pieds. Pas juste la tête qui est malade. Ce n'est pas étonnant qu'à la fin, toute l'Église est ivre. Toute l'Église n'est pas claire. J'aime beaucoup comment Ésaïe a décrit cela. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Qu'est-ce que ça te dit? Si les gens entendent nos messages, ils vont être fâchés. Mais ne sois pas fâché contre moi, sois fâché contre Ésaïe. Penses-tu que le Seigneur il va simplement regarder cela et ne pas juger? Et puis après, on va dire, oh oui, notre enseignement, la position de l'Église, c'est cela. Non, il n'y a pas de problème avec la vérité. C'est la parole du Seigneur. C'est moi qui suis responsable. Nous sommes les coupables. La faute est chez nous et non, c'est pas la faute du Seigneur. Hier, j'ai dit que cette vigne n'a pas porté de bons fruits, mais ce n'était pas la faute de Dieu. Il a même dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? J'ai entendu certaines personnes qui disent, « Oh, l'Église, regardez ce que nous sommes. » Est-ce que c'est la faute de Sion? Est-ce que c'est la faute de Jérusalem? Est-ce que c'est la faute de la parole de Dieu? La parole de Dieu ne fonctionne pas? Malheur à nous si nous disons cela. Nous devons nous laisser sondé par le Seigneur, sonde mon cœur, juge-moi. Maintenant, nous ne venons pas seulement, nous n'allons pas seulement vers le médecin, mais nous allons vers celui qui juge, le juge. Oh, je crois que personne ne fait cela. Oh, lorsque j'étais sur l'autoroute, j'ai conduit trop rapidement, alors je vais vers le juge et je lui demandais de me donner une amende. Qui fait cela? Mais toi, tu viens toujours vers le Seigneur. Et qui est le Seigneur? Un frère a lu, justement, que lui, le Seigneur, est notre juge. Bien sûr qu'il est aussi notre médecin. Il est aussi notre roi. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Le Seigneur ne trouve personne. Si tu parles à quelqu'un qui est ivre, penses-tu qu'il va comprendre ce que tu dis? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Si nous connaissons l'hébreu, et je crois que certains des frères qui sont araméens, ils connaissent cela.
Esaïe
il dit cela, je ne veux pas dire qu'il se moque, mais c'est comme si il parle comme les enfants. C'est du non-sens. On ne comprend pas. C'est comme cela. Paul a parlé ainsi concernant le parler en langue. Si tu parles en langue, je ne comprends rien. C'est comme un enfant qui comprend à parler, je ne comprends pas. Même l'enfant ne comprend pas ce qu'il dit. On ne comprend pas. C'est merveilleux. Mais je ne comprends pas un seul mot. Souvent, c'est comme ça. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Dans 1 Corinthiens 14, Paul aussi dit cela. Et Esaïe l'a déjà dit cela il y a très longtemps. Le parler en langue, ce n'est pas pour les croyants, mais c'est pour les incroyants. C'est pour les croyants incroyants. Il lui disait, voici le repos, verset 12. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, ils tombent à leur renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Attention, si tu parles trop en langue, tu vas tomber à la renverse, spirituellement parlant. Tu vas être brisé, enlacé et pris. C'est ce qu'Esaïe a dit il y a très longtemps. Dieu sait l'allemand. Et il aimerait bien te parler en allemand et non en chinois. Si je parle en chinois avec vous ce soir, ça ne vous sert à rien. Et Paul était aussi du même avis. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Ce sont les moqueurs qui règnent. N'est-ce pas affreux? Et ça se passe dans la ville de Dieu? Vous pensez que ça ne nous arrive pas aujourd'hui? Les conducteurs sont devenus des moqueurs. Et ils se moquent. Ils se moquent, ils vont se moquer de ce qui est dit. « tu as donné un discours concernant les constellations et ils se sont moqués de ce discours. Et ils ont dit, oh, ils n'ont plus l'esprit, maintenant ils doivent contempler les étoiles. Maintenant, on va parler des ivrognes. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Ils sont devenus des moqueurs. Ici, nous avons un point très important. Il y a tellement de points ici. Je les ai fait ressortir. Ils ont fait une alliance avec la mort. C'est une alliance de paix qui est basée sur des mensonges et de la fausseté. Mais l'alliance sera annulée et rompue. On va voir cela plus tard. Parce que cela parle de l'alliance du futur. Mais Ésaïe a parlé de cela et aussi Daniel au chapitre 9. Éphraïm est couronné d'orgueil et enivré de vin. À la fin, la couronne n'est pas la gloire du Seigneur, mais c'est de l'orgueil. Ils se sont couronnés eux-mêmes. Et ils sont enivrés. Et la beauté va partir. Vous pouvez crier, nous sommes l'Église glorieuse. Savez-vous, nous sommes l'Église glorieuse. Si tu es glorieux, tu n'as pas besoin de le dire. Tout le monde le voit. Et si tu n'es pas glorieux, tu dois insister sur le point que tu es glorieux. Si tu es tellement glorieux, tu n'as pas besoin de le dire. Le Seigneur n'est pas venu sur cette terre. Il n'a pas sonné de la trompette et a dit, « Je suis glorieux. » Ne voyez-vous pas? Je suis glorieux. Ésaïe dit qu'il a poussé comme une plante glorieuse. Qu'est-ce qui pousse d'une terre très desséchée? Une fleur? Il n'avait ni forme ni beauté. Car il voulait seulement exprimer le Père. Et c'est ça la gloire du Seigneur. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de sonner la trompette où nous sommes une Église glorieuse. Nous sommes l'Église glorieuse. Plus nous disons cela, plus nous sommes sans gloire et plus c'est laid. Est-ce que tu vas partout et tu dis, j'ai obtenu mon doctorat. Frères et sœurs, j'ai un doctorat. Maintenant, j'ai fait mon doctorat. Je suis docteur, tel et tel. Les gens vont penser que tu es ivre. Est-ce que tu as bu beaucoup de vin aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin de faire cela. Si quelqu'un fait cela, on peut soupçonner qu'il est orgueilleux. J'ai déjà dit trop. C'est pas bien. Et la maladie s'est répandue à Judas. Ça a commencé au nord. Ça a commencé par Israël, par les dix tribus. Et la maladie s'est répandue à Ariel, c'est-à-dire Judas. Malheur à Ariel, le point B, le lion de Dieu, ou le lion fort, se réfère à Jérusalem. Dans un bon sens, Jérusalem, c'est le lion de Dieu. Qui remporte la victoire contre l'ennemi, contre Moab, contre Édom. Contre toutes les nations environnantes. C'est un lion. Est-ce que tu as peur du lion qui se tient devant toi? Oui, certainement. Si l'Église se tient vraiment devant le Seigneur, nous sommes comme un lion rugissant. Satan, ce n'est pas le vrai lion. Si on lui résiste, il va partir. Est-ce que tu peux juste chasser un lion comme cela et il part en courant? Tu peux faire cela avec un chat ou avec une souris, mais pas avec un lion. Ce genre de lion, c'est un lion sans dents. Si on lui résiste, il part. Mais l'Église n'est pas ainsi. Notre Seigneur est le roi. Le lion de Juda. Et nous sommes les petits lions qui le suivent. L'Église s'appelle Ariel. On peut avoir un nouveau site qui s'appelle la Jérusalem céleste et entre parenthèses Ariel. L'Église, c'est pas le vrai nom. C'est Ariel. Malheur à Ariel. Se réfère à Jérusalem. La cité dont Dieu fit sa demeure. Qui est notre David aujourd'hui, si ce n'est le Seigneur? Ce n'est pas Shebna. C'est Eliakim. Je n'ai plus besoin de tout lire, sinon nous n'avons pas le temps. C'est mieux simplement de lire la parole, de lire les versets. Il nous faut aller plus rapidement. Lisez simplement les versets, vous n'êtes pas ivre. Chapitre 29. C'est merveilleux de lire ces versets. Nous apprenons beaucoup lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et en outre, le langage qu'utilise Ésaïe est unique.
Amen.
Malheur à Ariel, cité dont Dieu, dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année. Laissez les fêtes accomplir leur cycle. Que signifie cela? Ajouter année à année. Laisser les fêtes accomplir leur cycle. Cela veut dire que votre service pour Dieu est devenu comme une routine. C'est un travail de routine. Lorsque c'est le dimanche, tu te réveilles, tu ne penses plus au travail, mais tu penses à l'église. Et tu attends le dimanche d'après, et encore le dimanche d'après, dimanche après dimanche. Et tu fais toujours la même chose. Tu peux même faire ces choses dans le sommeil. Est-ce que notre relation aux réunions de l'Église est ainsi? Ce n'est pas une relation vivante, fraîche. Nous savons déjà, nous savons comment cela se passe. Nous sommes tous des professionnels. À la fin, cela devient une tradition. Nous venons à la réunion. Et si tu n'as pas amené ton classeur de chant avec, tu ne peux plus chanter. J'ai déjà dit aux frères et sœurs, si on t'enlève le classeur de chant, si on n'a pas de piano, pas de guitare, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas ton classeur de chant, nous sommes perdus. Nous ne savons pas quoi faire et nous nous fâchons. Non, ne prends pas mon classeur de chant. Chanter, c'est si important. Si tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas adorer. Pauvre Dieu. Il n'a plus de musique à entendre. Année après année. Laissez les fêtes accomplir leur cycle. Ça veut dire que c'est devenu une routine. Même jeûner et pleurer. Ceux qui sont revenus à Jérusalem ont demandé au prophète, est-ce que nous devons encore pleurer? Parce qu'ils étaient habitués à pleurer. Puis je vais assiéger Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements. Et la ville sera pour moi comme un Ariel. Ça va devenir le même mot qu'un four. Le lion, il va être grillé. Ariel, le lion, va être grillé. Le Seigneur va tout brûler. Il joue avec les mots. Ariel, tu vas devenir Ariel. Penses-tu que Dieu aime cela? Ça lui plaît que année après année, semaine après semaine, nous sommes là et on le fait de manière, c'est une sorte de système, c'est mortel. Beaucoup de gens disent que ce que nous faisons, c'est quelque chose de systématique. Non, nous faisons quelque chose de nouveau. Je ne sais pas depuis combien d'années, eux, ils font quelque chose de systématique. Je dis cela afin que vous compreniez ce que nous faisons. C'est la réalité, c'est l'expérience fraîche de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui a été cuit récemment. C'est la réalité de toutes ces offrandes que nous amenons au Père. Est-ce que c'est quelque chose de systématique lorsque tu manges des petits pains chaque lundi? Non, ce sont des petits pains qui ont été cuits le jour même. Mais si tu essaies de manger quelque chose qui a été cuit il y a 50 ans, ça c'est quelque chose de systématique. Ariel devient Ariel. Dieu va les cuire. Il ne pouvait plus supporter cela. C'est sa colère. Je t'investirai de toutes parts. Je te scènerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. L'Église devient un four. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. C'est très spirituel, mais c'est un fantôme. C'est quelque chose qui vient de la terre. Je crois que dans une traduction, c'est comme ici, sortira de la terre. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Quelle description! Malheureusement, c'est vraiment terrible si Ariel est devenu ainsi. Normalement, ce devrait être un lion majestueux, plein de vie et de force. Une force qui vainc la chair et le moi. Une force contre tant de choses, contre tous les ennemis environnants. Maintenant, ce n'est pas comme cela. C'est autrement. Vous pouvez lire les versets vous-même. Je vous donne seulement un avant-goût. Le Seigneur va les amener dans un profond sommeil. Ils disent, nous sommes en esprit, mais qu'est-ce que c'est comme esprit? Ils disent, nous sommes un, mais qu'est-ce que c'est comme unité? Dieu leur donne un esprit d'assoupissement. Est-ce que Dieu leur donne un esprit d'assoupissement? Est-ce que Dieu fait cela? Oui. Est-ce que tu es sobre? Pourquoi Dieu a répandu sur son peuple un esprit d'assoupissement? Parce que cela leur correspond.
Pharao,
Dieu a endurci le cœur de Pharaon afin qu'il soit encore plus endurci. Si tu es endurci, Dieu, il va t'endurcir encore plus. Vous ne connaissez pas assez bien Dieu. Tu penses que si tu es mort, Dieu va te donner l'esprit de vie. Si tu es mort, Dieu va te rendre encore plus mort. 7 fois plus. Celui qui a beaucoup, il va recevoir encore plus. Et celui qui a moins, même ce qu'il a, lui sera ôté. Si tu es vivant, Dieu va te rendre encore plus vivant. Si je suis mort, Dieu va te rendre encore plus mort. Un mort ne reste pas mort. Il décrépit et à la fin, ça sent très mauvais. Excusez-moi de vous dire la vérité si de manière si crue. Nous avons des idées bizarres. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous nous faisons des idées concernant Dieu parce que nous ne lisons pas la Bible. Il va répondre sur eux un esprit. Mais la question c'est, qu'est-ce que c'est comme esprit? Cela dépend de ce que tu mérites. Dieu n'est pas aveugle. Et il a dit cela à son peuple. Ils honorent Dieu. Ils font toujours comme avant. Ils gardent, ils observent les fêtes. Ils font leur culte. Ils ne vont pas arrêter. Mais ça n'a plus de signification pour Dieu. Ils honorent Dieu de la bouche et des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et il a aussi dit que c'est une adoration faite par l'homme. Oui, les gens, ils adorent. Ils ont appris cela par les hommes, pas de Dieu. Est-ce que Dieu va accepter cela? C'est une adoration faite et apprise par l'homme. Est-ce qu'il n'a pas dit que vous rendez nulle la parole de Dieu par vos traditions? Est-ce que Paul n'a pas dit qu'ils ont une forme? Ils sont pour une forme de la piété, mais ils renient la force. Extérieurement, il y a quelque chose, mais à l'intérieur, tout est vide. Il y a seulement une coquille vide. À quoi cela sert à Dieu d'avoir une coquille vide comme Babylone? Extérieurement, il y a une coupe dorée, mais à l'intérieur, il y a des abominations. Mensch, menschgemachte Anbetung ist äußerlich schön. cette adoration faite par l'homme est belle extérieurement, mais quel en est le contenu? Rien. C'est vide. Voulons-nous avoir une telle adoration? On peut tout trouver ici dans ces versets. Ésaïe avait déjà tout dit. Il nous avait déjà averti. Et les gens, ils veulent dire que ça, c'est l'Ancien Testament et que cela ne nous concerne pas. Mais ça nous concerne entièrement. Et ne dites pas eux, ça peut aussi nous arriver à nous. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous humilions pas devant le Seigneur, si nous ne nous vidons pas et que nous disons, Seigneur, sois-nous miséricordieux, aide-nous, ouvre-nous les yeux. Le point C. Malheur à ceux qui cachent le dessein pour les dérober à l'Éternel. Ésaïe 29, 15 à 16. Ils cachent leur dessein. Ils font des dessins dans les ténèbres en secret afin que les frères et sœurs ne sachent pas ce qu'ils font. Mais quelqu'un sait ce qu'ils font. Le Seigneur, il voit tout. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Le Seigneur connaît déjà tes pensées depuis loin. Il connaît déjà tes pensées. C'est écrit dans les psaumes. Et avant d'exprimer une parole, il sait déjà ce que tu vas dire. Alors, qu'est-ce que tu vas cacher devant Dieu? C'est possible seulement si tu ne crains pas Dieu. Alors, tu te trompes. Malheur à ceux qui cachent le dessein pour les dérober à l'Éternel. Cela veut dire que leurs œuvres sont dans les ténèbres. Ils mettent tout à l'envers. Ils tordent tout. La tête est en bas et les pieds sont en haut. Ils marchent sur les mains. Ce qui est juste est faux et ce qui est faux est juste. Tout est à l'envers. Ça sera le résultat. Et c'est ce qu'Ésaïe décrit. Vous pouvez lire tous les versets. À la fin, tout est tordu. À l'envers. Pas droit. Ce qui est de Dieu, ils disent que ce n'est rien. Et ce qui n'est pas de Dieu, ils disent que c'est de Dieu. Tout est à l'envers. Est-ce que Dieu ne va pas juger? Et s'il nous aime, il va nous juger. S'il nous abandonne, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si Dieu ne fait plus rien, cela veut dire que c'est fini. Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Tu ne peux pas lui cacher quelque chose et tu penses que lui ne le sait pas. Tu le sais même pas, mais lui, il le sait. Et puis, malheur aux enfants rebelles qui s'appuient sur la force de l'Égypte au lieu de chercher l'Éternel pour trouver de l'aide. Je remercie le Seigneur parce que nous n'avons pas pris Ésaïe il y a 5 ou 6 ans. Car cette parole est nécessaire pour nous maintenant. Et si nous sommes rebelles contre le conseil de Dieu et du Saint-Esprit, nous avons beaucoup d'opinions, nous avons nos plans, et spécialement si nous sommes enivrés de vin, si nous ne sommes plus sobres et que nous chancelons. Nous faisons beaucoup de sottises et nous disons ce que nous ne devons pas dire. Si nous sommes contre le plan de Dieu et si nous nous rebellons contre le Saint-Esprit, alors nous irons en Égypte. Car la source céleste est fermée, alors qu'est-ce que tu vas avoir comme source? Beaucoup de jeunes iront dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire autrement? Si tu n'as plus l'amour du Père, qu'est-ce que tu vas aimer? Tu vas aimer le monde. Il n'y a que deux choix. Nous avons ces malheurs. Malheur à ceux qui s'appuient sur la force de l'Égypte au lieu de chercher l'Éternel pour trouver de l'aide. Ils vont s'appuyer sur les chevaux, sur les chars, et à la fin, ils utilisent des méthodes mondaines, et peu à peu, ils vont aller dans cette direction. Les groupes, ils vont dans toutes les directions. C'est une révélation dont nous avons besoin aujourd'hui. Si nous voulons nous préparer pour le retour du Seigneur, nous avons besoin de cela. Ce ne sont pas de belles paroles. Peut-être que nous n'aimons pas entendre cela. En tout cas, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre cela, mais c'est le Seigneur qui parle. Que cela nous plaise ou non, est-ce que ça me plaît? Mais je n'ai pas de choix. Quelle nourriture est-ce que je veux manger? Et à la fin, ils font une alliance avec la mort. Au lieu d'observer la nouvelle alliance, l'alliance avec Dieu, ils l'ont laissé de côté. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme alliance? Et qui va t'offrir une autre alliance? Alors tu fais une alliance avec la mort, qui est basée sur des mensonges et de la fausseté. Que devons-nous dire? Une chute amène toujours à une chute plus profonde. Tu ne restes pas seulement à une marche, mais tu descends d'une marche à l'autre. Tu vas toujours de plus en plus profondément en bas. Mais si tu montes, tu continues à monter. Cela dépend de dans quelle direction tu désires aller. En ce temps-là, ils ont conclu une alliance avec les Assyriens. Ils ont cherché de l'aide auprès d'eux. Contre la Syrie, contre Damas et contre la Samarie. Si on conclut une telle alliance, ne pensez pas qu'ils vont l'observer. Et tu prends de l'or du temple, tu le ramènes, cet or. Tu le ramènes, cet or. Ça, c'est aussi une déception. Est-ce que les gens vont t'aider si gratuitement? Ça n'existe pas. Il faut de l'argent. Si tu fais une alliance avec l'ennemi, il faut qu'il y ait quelques avantages. Alors, cette alliance avec la mort est basée sur des mensonges et de la fausseté, mais ça se trouve des deux côtés. Et dans Ésaïe 33, on voit que l'autre partie ne garde pas cette alliance, brise l'alliance. Il y avait cette alliance historiquement, mais cela montre une autre alliance qui va venir. Nous l'appelons le traité de paix, mais le vrai mot, ce serait une alliance. Et cette alliance, c'est pour la paix. Il y avait la guerre. Il n'y avait pas de paix, alors il faut faire une alliance de paix. Mais avec qui? Avec qui? C'est ça la question. Et Dieu a dit, cette alliance va être annulée et rompue. Dieu les avait déjà avertis. C'est vraiment une offense pour Dieu. J'aurais pu vous aider et maintenant vous faites une alliance avec ces gens-là. Et à la fin, cela ne va pas marcher. En fait, cette alliance se réfère à Daniel 9. Et cette alliance va bientôt être réalisée. D'abord, Ésaïe a parlé de l'alliance. Il a mentionné l'alliance. Qu'il sache que cela se référait à Daniel 9, je ne le sais pas. Mais maintenant, lorsque nous lisons tous les versets, nous savons que ça se référait à ce chapitre, Daniel 9. Mais c'est une alliance basée sur des mensonges et sur des faussetés. Il n'y a pas de vraie paix. Et au milieu des 7 années, cette alliance va être brisée, comme Ésaïe l'a dit. L'alliance sera rompue. Que devons-nous faire? Et avec qui? Avec qui est-ce qu'il conclut cette alliance? C'est avec le destructeur. C'est pour cela qu'il y a le 6e malheur. Si nous avons des yeux pour voir, ce sera très clair. Ce que Ésaïe a dit se réfère toujours au futur. Et beaucoup de prophéties des prophètes n'étaient pas seulement valables pour ceux, pour leur temps, mais aussi pour le futur, pour ce qui allait arriver au cours de l'histoire. Si nous mettons tout cela ensemble, nous voyons cela. Nous voyons ce qui va se passer maintenant. C'est pour cela que nous avons le 6e malheur. ce malheur est contre le destructeur, contre ce ravageur. Apparemment, c'est quelqu'un qui aide, mais celui qui aide devient le destructeur, le ravageur. C'est le point 3, Romain. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je parle du non-sens, je dis des sottises. Annonçons le jour de la vengeance du Seigneur, le pressoir de la colère de Dieu, point A. Ça veut dire cette alliance. Le résultat de cette alliance, c'est que la colère de Dieu s'exprime. Et Dieu? Dans ce cas-là, c'est le roi des Assyriens. Il va devenir le destructeur, le ravageur. Et lui, il va devenir l'outil de Dieu pour combattre contre Israël. Extérieurement, nous nous réjouissons parce qu'on va signer le traité de paix. C'est un signe que le Seigneur va revenir. Mais ce qui vient, c'est cette destruction. Tu te réjouis parce qu'il y aura une alliance. Ah oui, les 7 années vont venir. Mais, en même temps, la destruction va venir. Est-ce que tu te réjouis de cette destruction si tu n'es pas préparé? Le traité de paix ou l'alliance de la paix amène la destruction. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Ésaïe a vu cela il y a tant d'années. Est-ce que vous êtes encore réveillé? Et ensuite, on a le siège de Jérusalem. Le jour de la vengeance du Seigneur. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous devons prier. Nous ne prions pas pour l'alliance. Mais nous prions pour la miséricorde du Seigneur envers son peuple. Nous prions que Dieu ait miséricorde de nous et qu'il rassemble ce reste, que d'autres pas sortent de Babylone. Nous devons intercéder pour cela. L'alliance va être faite de toute manière. Mais puisque nous savons que cela va vite arriver, nous devons prier pour le peuple de Dieu. Nous devons prier pour le peuple de Dieu partout à Babylone. Nous devons prier qu'il sorte. Priez que la volonté de Dieu se passe. Et nous voyons dans Apocalypse 5 et 8 à la fin que les saints ont prié. Ils ont prié avant le jour de la vengeance du Seigneur. La prière des saints est la réponse du Seigneur. Ensuite, point D, la désolation. Le point E, le Seigneur se lève et est exalté dans la bataille. Et le résultat, c'est que leurs yeux verront le roi dans sa beauté. Tout œil le verra. Apocalypse 1:7. Spécialement son peuple. C'est tellement clair, c'est tellement glorieux à la fin. C'est vraiment un encouragement. D'une part, il y a son jugement. D'autre part, il y a son encouragement. J'entends pas très bien là. Et notre espérance, c'est que nous allons voir le Seigneur dans sa gloire. La deuxième venue du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est vraiment quelque chose de glorieux et nous attendons cela. Nous l'attendons en espérance, dans l'espérance. Nous attendons l'arrivée glorieuse de notre Seigneur. Mais avant sa venue, il y aura tous ces malheurs. Autrement, tu vas te cacher quand il vient. Tu auras peur de le voir. Quand il viendra, il sera non ton roi, mais ton juge. Prenez cette parole au sérieux. Moi, je le prends très sérieusement pour moi-même. C'est vraiment très important.
Amen.
Et puis, demain matin, on traitera le point suivant. Prions.